Le débat du jour.
Sébastien Duhamel.
Bonsoir à tous. Existe-t-il aujourd'hui une défiance à l'égard de la science et des scientifiques? Vaste débat ce soir sur RFI. La parole scientifique semble de plus en plus remise en cause, voire parfois décrédibilisée. Il y a par exemple, et cela peut prêter à sourire, les platistes, ceux qui croient que la Terre est plate. Il y a également, et ça fait beaucoup moins rire, les climato-sceptiques, ceux qui doutent du réchauffement climatique, de ses causes et de ses conséquences. Plus récemment encore, au plus fort de la pandémie, on a entendu les covido-sceptiques, ceux qui doutaient de la mortalité ou de l'existence même du Covid-19, et les antivax, ceux qui doutaient des vaccins proposés pour y répondre. Des théories parfois farfelues ont proliféré au détriment, bien souvent, de la connaissance scientifique. Mais ce phénomène est-il minoritaire ou s'agit-il en effet d'une véritable défiance aujourd'hui à l'égard de la science? Comment peut-on l'expliquer ou y remédier? Nous avons 30 minutes pour en parler, soyez les bienvenus.
RFI.
Et avec nous ce soir pour ce débat en studio, Michel Dubois, sociologue, directeur de recherche au CNRS, bonsoir.
Bonsoir.
Avec nous également par téléphone, Yves Charpak, médecin, spécialiste en santé publique, président de la Fondation Charpak, l'esprit des sciences. Bonsoir monsieur Charpak.
Bonsoir.
Et enfin, avec nous, par téléphone également, Frédéric Worms, professeur de philosophie contemporaine, directeur de l'École normale supérieure. Bonsoir.
Bonsoir et merci de votre invitation.
Merci, merci à tous les trois, évidemment, d'avoir répondu ce soir sur RFI et de prendre de votre temps. Deux chiffres, tout d'abord, pour situer ce débat. Selon le baromètre de la confiance politique, publié en janvier 2022, 82% des Français disent faire confiance dans l'ensemble à la science. Mais selon un autre sondage réalisé en 2020, au début de la pandémie pour le magazine Science et Avenir, 62% des Français estimaient que la science apporte autant de bien que de mal. Ce chiffre est en constante évolution depuis 2005. La première question ce soir que j'aimerais poser est pour Yves Charpak. En tant que médecin, à l'heure de la pandémie de Covid, est-ce que vous avez pu vous-même constater une défiance ou une forme de remise en cause de la parole scientifique?
Alors, je vais répondre, vous me posez, c'est presque deux questions en une. Il y a eu évidemment des questionnements, des remises en question de la connaissance scientifique. Ça a porté par exemple sur les vaccins, on a bien vu que c'est quelque chose, mais ça existait déjà avant la pandémie. Et par exemple, si la France a rendu obligatoire un certain nombre de vaccins, c'était fin 2018 ou 2019, je ne me souviens plus exactement, c'est justement parce que la couverture vaccinale baissait. Et ça peut être de la défiance par rapport au vaccin, mais ça peut être aussi quelque chose qui touche plus profondément nos modes de fonctionnement. C'est que quand quelque chose, la prévention est un sujet passionnant, mais la prévention consiste à empêcher que des événements n'arrivent, des événements négatifs. Et bien, quand ça marche, au bout d'un moment, on a une tendance naturelle à considérer que pour finir, ça ne sert à rien puisqu'il ne se passe plus rien. Et donc, cette question-là, j'aimerais la poser parce que c'est pas de la défiance, c'est quelque chose qui est très, très profondément ancré chez nous. C'est qu'on n'a pas envie d'être, on n'a pas envie de s'embarrasser avec des sujets difficiles. Et donc, on a tendance à dire, puisqu'il ne se passe rien, oublions-le. Alors, je n'ai pas répondu complètement et je peux continuer à avancer. Je ne sais pas comment vous voulez. On vit dans un monde, dans un tourbillon en fait de connaissances scientifiques. Donc la question, c'est la défiance de la science, des scientifiques, des institutions qui produisent la science.
Tourbillon de la science, c'est-à-dire une prolifération de l'information scientifique.
C'est une on peut appeler ça prolifération. Moi, j'ai envie de dire que c'est une production extraordinaire de la science.
Une multiplication. Ouais.
Une multiplication. Elle est encore plus importante que dans le passé. Je peux vous dire que selon l'UNESCO, il y a quelque chose comme 8 millions de chercheurs dans le monde, en croissance permanente. C'est plus de 30 000 journaux scientifiques. C'est 2 millions d'articles par an au moins. Et même, par exemple, pour la crise Covid qui vient de nous arriver, dans les deux dernières années, il y a eu plus de 400 à 500 000 articles scientifiques publiés dans des revues scientifiques. Donc, même pour des scientifiques dans le dans leur propre discipline, c'est pas facile de tout suivre, c'est compliqué.
Et donc ça peut peut-être pour le grand public rendre cela moins intelligible, cette multiplication de la parole scientifique, c'est ça?
Oui, parce que paradoxalement, comme en même temps la crise a amené beaucoup de scientifiques et d'experts sur le devant de la scène, ça a donné l'impression qu'il y avait que cette multiplication de la connaissance scientifique n'était pas cohérente. Or, il se trouve que cette connaissance-là, c'est quelque chose qui entre dans une espèce de matrice de connaissances scientifiques, d'autant plus que les scientifiques communiquent entre eux dans le monde entier. Et cette connaissance, elle circule partout, et donc elle peut donner le vertige. Et ça aboutit au fait qu'il y a des nouveaux métiers de la connaissance scientifique qui sont assez peu connus des citoyens. C'est-à-dire le fait qu'il devient nécessaire d'avoir des synthèses scientifiques de la connaissance scientifique, des synthèses de synthèses, et des agences et des comités qui font de la synthèse de connaissances. Évidemment, avec des noms qui tout d'un coup apparaissent pour les citoyens, et on a l'impression qu'ils peuvent donner l'impression d'une espèce d'administration de la connaissance très contrainte, alors que, évidemment, ce tourbillon d'informations scientifiques a besoin de nouveaux métiers qui produisent de la synthèse et qui vont contribuer à la faire connaître à ceux qui en ont besoin, aux décideurs, aux professionnels qui les utilisent, par exemple les médecins, qui ne sont pas, j'ai envie de dire, pas eux-mêmes des scientifiques en général, mais qui utilisent la connaissance scientifique. Eh bien, il faut de plus en plus d'outils pour leur amener la connaissance qui est produite.
Michel Dubois, votre regard de sociologue face à ce tourbillon scientifique dont vient de nous parler Monsieur Charpak, est-ce que vous sentez, par le biais de vos études au CNRS ou autre, est-ce que vous sentez une défiance populaire aujourd'hui à l'égard de la science et de la parole scientifique?
Oui, je pense que c'est une question très intéressante, et la façon dont vous avez d'ailleurs lancé ce débat du jour est intéressante, parce que vous avez concaténé, mis ensemble deux questions qui sont assez différentes en réalité. D'un côté, une question qui porte sur la défiance exprimée ou la confiance exprimée à l'égard d'un groupe de référence, ici ce sont les scientifiques, mais ça pourrait être n'importe quel autre groupe. Et puis par ailleurs, le jugement qui est porté sur les apports de la science. Et effectivement, une des singularités de la France dans le monde par rapport à cette question des jugements portés sur les apports de la science, c'est qu'on a une situation d'ambivalence très très forte, qu'on ne trouve pas ailleurs. C'est-à-dire, effectivement, il y a une majorité de nos enquêtés aujourd'hui qui considèrent que la science apporte autant de bien que de mal.
C'est pour ça que je voulais le mettre en avant.
Vous avez raison, c'est un point extrêmement singulier et qui mérite une attention particulière, mais qui est en réalité assez différent de la question de la confiance. Et par ailleurs, effectivement, étant sociologue, je dirais que, et travaillant sur la base d'enquêtes empiriques, ce qui est intéressant avec la question de la confiance, c'est qu'on a un débat public qui est extrêmement centré sur cette question. Donc essentiellement à travers un prisme négatif, c'est-à-dire on parle essentiellement de la défiance, de la méfiance, et je pense qu'on a vu s'accumuler tous les jeux de mots possibles pendant la période Covid sur le virus de la défiance et une société qui serait malade de la défiance. Et donc ce qui est intéressant du point de vue des sciences sociales, c'est que c'est une question qu'on peut trancher empiriquement, c'est-à-dire il suffit effectivement de faire un travail d'enquête. Donc on a développé ce travail d'enquête avec deux collègues pour essayer d'établir un peu un bilan des attitudes des Français à l'égard des sciences et des techniques, et qu'on a rendu public à la fin de l'année 2020. Et on a un résultat qui est très clair, qui est très simple. Il y a une expression de confiance de principe qui est accordée à l'égard des scientifiques pour 8 Français sur 10. Alors effectivement, ce n'est pas 10 Français sur 10. Donc il reste effectivement une minorité de la population qui ne se retrouve pas dans ce jugement de confiance. Mais on a un phénomène largement majoritaire. Et c'est quelque chose que l'on retrouve depuis très longtemps. En réalité, c'est nos attitudes, en particulier nos attitudes de confiance, sont stables dans le temps depuis quasiment les années 70, puisqu'on a 50 ans de recul sur ces questions des attitudes. Et donc, pour moi, la vraie question, finalement, c'est pas tant de savoir est-ce qu'il y a la confiance ou est-ce qu'il n'y a pas de la confiance dans le grand public. C'est plutôt de savoir pourquoi on a un débat public qui est centré et qui renouvelle sans arrêt cette question de la défiance, la méfiance.
La question de la polarisation, peut-être. Oui. Ce que vous avez écrit, je crois, dans un de vos articles dans le journal du CNRS, c'était en juin 2020, la crise a-t-elle changé notre regard sur la science? Et vous nous dites justement que l'un des apports majeurs, c'est la polarisation du débat public. Mais finalement, dans le temps, la confiance relative des Français envers la science et ses apports n'a pas changé globalement.
Oui, il faut effectivement essayer de prendre un petit peu de recul, c'est-à-dire qu'on a tous été un petit peu affolés un petit peu par ce qui s'est passé pendant la période du début de la crise Covid, parce qu'il y avait énormément d'incertitudes et donc on voyait effectivement les indicateurs osciller de façon très très forte, mais pour des raisons compréhensibles. Et il faut bien dire effectivement que nous on mène actuellement un travail d'enquête sur l'impact de la crise Covid sur les scientifiques. Les scientifiques eux-mêmes ont vécu cette période comme une période de crise, et ça a été pour beaucoup une sorte d'ascenseur émotionnel, hein, à la fois en termes d'anxiété, d'enthousiasme. Et donc il ne faut pas imaginer que les scientifiques vivent ça de façon totalement différente que le grand public. Mais effectivement, le point qui est important, c'est qu'on peut avoir des oscillations très très fortes, momentanées, sur une période très très courte, et effectivement, les instituts de sondage montrent ça très très bien, avec des relevés tous les mois, mais fondamentalement, nous, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre un petit peu dans le temps long ce qui se passe, et quel type de spécificité ça va avoir par rapport à d'autres crises, puisque c'est une crise parmi d'autres en réalité. Hein. Les crises sanitaires, on en a vécu d'autres, et elles ont donné lieu également à ces oscillations. Donc, c'est pour ça que j'insiste bien sur... Mais finalement, il y a un consensus assez fort sur l'idée, en tout cas du point de vue des résultats, pour dire qu'on a une forte stabilité de la confiance du grand public, y compris dans ces périodes de crise, et les choses se sont stabilisées de façon assez claire. Et donc, la vraie question, c'est mais pourquoi ce débat public reste-t-il centré sur l'idée de méfiance, alors que tout indique le contraire? Et donc là, c'est vrai, pour moi, c'est ça qui est intéressant. C'est ça qu'il faudrait sans doute discuter.
Ça va peut-être rejoindre la question que je vais poser maintenant à Frédéric Worms. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque part d'autres motivations quand on met en avant ce discours qui remet en cause la parole scientifique? On parle beaucoup d'une montée des populismes, d'une forme de malaise démocratique. Est-ce qu'on peut parler, Frédéric Worms, d'une fracture avec la rationalité, quelque part, ce qui mènerait à rejeter la parole de ceux qui sont porteurs, entre guillemets, d'une forme d'autorité ou des institutions scientifiques?
Oui, alors moi d'un côté, effectivement, je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Michel Dubois sur le sens de vos deux questions sont assez différentes. Les deux questions de sondage que vous évoquiez au début sont assez différentes et dans un premier temps, on peut être rassuré par le fait que 80% des Français fassent confiance à la science dans son ensemble. Mais je vais y revenir, moi en effet, je suis un peu plus pessimiste que ça pour une raison que je vais essayer de préciser. Mais d'abord, en effet, je suis aussi d'accord pour dire que la deuxième question, la science apporte autant de bien que de mal, est différente, à condition qu'on comprenne bien qu'on peut en effet penser que la science en elle-même n'apporte ni bien ni mal, mais que les usages de la science peuvent être bons ou mauvais. C'est vrai qu'on a l'impression aujourd'hui avec le climat, par exemple, qui est le réchauffement climatique, qui a un effet indirect de la technique et donc de la science humaine, on peut avoir l'impression, en effet, c'était déjà vrai avec la bombe atomique, hein, que les usages de la science ont quelque chose de potentiellement négatif. Et ça ne doit pas retentir sur la science elle-même. Et la défiance doit porter plutôt, ou la confiance, ou la protection de la confiance des gens dans le savoir doit porter sur le contrôle des usages, le fait qu'on ne se sert pas de la science pour faire la guerre, mais pour faire de la médecine, et pas pour détruire la planète, mais plutôt pour la préserver. Donc là, il faut effectivement, cette deuxième question, 62% des Français qui pensent qu'il y a autant de bien que de mal qui peut résulter de la science, je pense qu'elle donne une toile de fond qui vient s'ajouter quand même à une sorte de critique du progrès, de critique de la science, que je trouve en effet dangereuse et qui mobilise les populismes. Mais moi, mon inquiétude, elle vient d'un autre point, et là, je pense que c'est de ça qu'il faudrait aussi discuter, c'est quand vous parlez du populisme, en effet, bon, il prend différentes formes, mais sur la science, il prend une forme particulièrement perverse, le populisme au sens dangereux du terme, c'est qu'en effet, il va pas critiquer la science de manière massive en réalité, mais plutôt prétendre à la scientificité par d'autres biais. Par exemple, les platistes que vous évoquiez au début, ils disent qu'ils l'ont démontré, ils disent qu'ils ont une théorie. Ils ne disent pas qu'ils sont contre la science, ils disent juste qu'ils ont la vraie science.
Oui, il y a tout un tas de théories, effectivement, des sites internet entiers qui sont dédiés à ce phénomène. C'est un phénomène récurrent depuis le début des années 2000, d'ailleurs. Il reprend en force. Ouais.
Mais ce qui est très frappant, c'est que les critiques de la science miment la science. Prétendent à la science et produisent ce que certains experts de l'ignorance entretenue, comme on dit, on a un spécialiste de ça à l'ENS, Mathias Virel, qui est très, très fort là-dessus, montre que la fausse science, ne consiste pas juste à critiquer la science, mais plutôt à produire des hypothèses alternatives. Par exemple, les producteurs de tabac qui disent « mais c'est pas sûr que le tabac cause le cancer du poumon. Il y a une étude par-ci, par-là qui montre, qui peut montrer éventuellement le contraire. » Bref, on insinue du doute et la défiance est beaucoup plus perverse. Elle ne consiste pas à dire « la science est erronée », mais à produire des faux savants sur les plateaux de télévision ou des savants qui sont savants d'un domaine mais qui parlent d'un autre. Et donc, il y a une sorte de... Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que dans ce 82% des Français qui font confiance à la science dans son ensemble, il y a malgré tout des risques et des acteurs qui peuvent se servir de cette confiance envers la science en général pour faire surgir des faux savants, faire surgir du doute. Et là, je pense que c'est là que l'éducation scientifique est fondamentale pour comprendre que la science, en réalité, c'est dans laquelle les gens ont raison d'avoir confiance. Ben, elle a des critères, elle a des institutions, elle a des règles. Il faut apprendre la méthode scientifique, ne pas croire quelqu'un qui a une blouse blanche sur parole juste parce qu'il a une blouse blanche. Mmh. Que justement, entre les blouses blanches eux-mêmes, parfois entre les savants, il y a du débat, il y a du...
De l'incertitude, c'est aussi le propre de la science.
L'esprit critique, exactement. Et donc, en un sens... C'est pour ça que je suis en effet un peu plus inquiet que simplement ce sondage sur la confiance globale envers la science, parce que cette confiance qu'il faut préserver peut être aussi instrumentalisée par des fauteurs de doutes, comme on dit, des fauteurs de troubles, et qui, en effet, pendant la pandémie, ont jeté de l'huile sur le feu. En fait,
oui, ceux qui disent que les hypothèses scientifiques ne sont finalement que des hypothèses parmi d'autres.
Qu'ils disent, voilà, on n'en sait rien, peut-être que l'eau de Javel peut guérir, peut-être que... Et le peut-être que, bah, ça fait hypothèse scientifique, ça ne fait pas forcément critique radicale, mais en fait, c'est radical, parce que le vrai savant, il dit ça, on ne sait pas, et ça, on l'a prouvé, et il ne dit pas peut-être, en réalité, pas souvent, ou alors il évalue une probabilité de manière elle-même scientifique, de même que les sciences sociales, d'ailleurs, je voudrais juste le souligner pour terminer, parce que l'enquête de Michel Dubois montre bien que les sciences sociales aussi ont leur méthode d'établissement des faits, et que là aussi, il faut pour toutes les sciences, j'insiste aussi pour les sciences de la nature comme pour les sciences sociales et la médecine, d'abord insister sur la méthode, les critères, ce qui est scientifique et ce qui ne l'est pas, et que toute prétention à la science ne vaut pas.
Yves Charpak, vous vouliez réagir au propos de Frédéric Worms.
Oui, je veux surtout réagir sur ces derniers propos en allant peut-être un tout petit peu plus loin sur le fait que il y a la question de la littératie en santé, de la compréhension de ce que c'est que de la production de la connaissance scientifique. Et notre éducation dès l'enfance, même si elle inclut un peu de culture scientifique, plutôt tournée vers une accumulation de résultats des sciences, c'est-à-dire qu'on s'intéresse aux résultats, on ne s'intéresse pas aux méthodes, ce qui a été dit, elle pêche par le fait que ça s'arrête là. C'est-à-dire que l'activité scientifique séduit encore. Ce qu'elle séduit, c'est parce qu'elle a des résultats. On parle beaucoup des résultats, mais la part essentielle de la réalité scientifique, ce n'est pas le résultat, mais c'est la méthode, les erreurs corrigées, le tâtonnement, la façon...
Émettre
la,
une hypothèse
la forme de raisonnement.
Et démontrer, c'est ça ?
Exactement, la forme de raisonnement. Et... Donc, la façon dont la connaissance scientifique se construit, elle est rarement abordée. Comment est-ce qu'on fait pour réaliser une recherche ? Comment se construire cette connaissance ? Comment savoir si elle est pertinente ?
L'esprit scientifique, comme le définissait Bachelard déjà en son temps.
L'esprit scientifique, l'esprit des sciences, c'est ce plongeon en pratique dans la vraie vie de la science de tous les jours, dans la vie des scientifiques, dans la compréhension des méthodes. Eh bien, on a peu d'occasions pour la plupart des citoyens d'y être confronté. Et du coup, la production de la connaissance scientifique, c'est un monde à part. Et on a même tendance, les citoyens ont tendance à se dire « Ah, mais ça concerne des gens qui sont capables de réfléchir. Je botte en touche, je me mets en retrait et laissons-les parler entre eux. » Alors, c'est aussi une occasion de défiance, puisqu'on peut dire « Ben voilà, ils ont des opinions et il y en a qui disent ça, d'autres qui disent autre chose et on est d'accord ou pas d'accord. » Mais le travail qui consiste à entrer dans la compréhension de la production de la connaissance scientifique, en fait, on a peu d'occasion de le faire, sauf dans des filières extrêmement spécialisées. Et ça reste vrai à tous les échelons de la société. C'est-à-dire que c'est vrai aussi pour nos décideurs, c'est vrai pour un certain nombre de métiers qui sont des utilisateurs de la science. Ou pour finir, la production de la connaissance, elle est réservée à des cerveaux particuliers qui sont à part et qui ne sont pas intégrés au reste de la démarche. Et ça crée une vraie une vraie rupture entre la production de la connaissance scientifique d'un côté et ceux qui vont l'utiliser. On parlait de tous les enjeux actuels de nos vies, qui sont l'énergie, les communications, l'alimentation, l'agriculture, l'environnement, le changement climatique, tout ça. Et les crises sanitaires, bien sûr, parce que la santé est encore moins présente dans l'éducation à la science à l'école. Eh bien, tout ça, on fait comme si la production de la connaissance scientifique se faisait dans un monde à part.
Michel Dubois, je voyais qui c'est.
Oui, je voulais effectivement juste rebondir un petit peu sur les propos de Frédéric Vamps et Yves Charpak, parce qu'effectivement, ils pointent différents problèmes qui sont extrêmement intéressants. Sans doute un premier point, ce sont effectivement ces nouveaux habits, on pourrait dire, de la critique des sciences. Mmh. Frédéric, effectivement, mentionnait le fait que sous l'apparat de la scientificité, des fois, se développent des discours, des discours qui sont des discours très critiques. Mais il faut aussi rappeler, par ailleurs, que, et ça, c'est une tradition des scientifiques, de la communauté scientifique, que la communauté scientifique, elle-même son propre discours critique, hein, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'autocritique des sciences, et on a vu...
Le peer reviewing, comme on dit, voilà, la revue par ses propres pairs.
Sans aller jusque-là, mais moi j'étais sensible effectivement au fait que pendant cette période Covid, on a vu des scientifiques effectivement tenir des propos assez étonnants sur le travail scientifique. On a vu, la professeure Marseillais nous apprend par exemple qu'il ne fait pas de différence entre les modélisateurs et l'astrologie. Donc là, quand on en est arrivé à ce stade, c'est qu'effectivement on a quelque chose qui s'est perdu en route. Et puis, le deuxième point qui me paraît extrêmement intéressant, effectivement, dans les propos de Charpak et Frédéric Vamps, c'est effectivement de revenir à ce qu'est l'esprit de la recherche. Mm-hmm. Et il faut bien voir que cet esprit de recherche, il est très, très proche, en réalité, d'une sorte de la culture du doute. Un sociologue américain utilisait la notion de scepticisme organisé pour décrire, effectivement, cette culture du doute partagée dans la communauté scientifique. Et il faut, effectivement, rendre sensible la qualité de ce doute, l'importance de ce doute. Mm-hmm. Mais on voit bien que quand on fait ça, en réalité, on met les enquêtés, enfin le grand public en général, devant une forme d'injonction contradictoire, c'est-à-dire à la fois on leur demande...
Le sentiment qu'on dit blanc un jour, voilà, noir le lendemain...
C'est-à-dire on leur demande à la fois d'exprimer un sentiment de confiance fort à l'égard de la communauté scientifique, et en même temps on leur demande de cultiver le doute par rapport à toute forme de certitude.
Donc, la science est démontrée et démontée.
Voilà, ce travail de familiarisation avec ce qu'est la science, c'est effectivement quelque chose de très important, et il faut la saisir cette démarche, effectivement davantage du point de vue de ses principes généraux, en réalité, que du point de vue des énoncés de connaissances. Nous, on a fait ça effectivement sur l'enquête en mesurant les bonnes et les mauvaises réponses par rapport à des questions élémentaires de savoir et de culture scientifique. Donc on peut faire ça, c'est une façon un peu brute, un peu idiote de mesurer la culture scientifique. En réalité, on peut le faire de différentes manières, et je pense que c'est plus important sans doute de faire ce travail de sensibilisation à ce qu'est la démarche scientifique qu'à simplement mesurer les bonnes et les mauvaises réponses à ce type de questions.
Justement, sur la finalité de la recherche et les usages qu'on peut en faire. Frédéric Vamps, on a beaucoup entendu une critique qui s'est développée notamment autour des vaccins. On nous dit parfois que les intérêts de santé publique s'entremêlent avec des intérêts commerciaux. On peut parler de Big Pharma, par exemple, les grands groupes pharmaceutiques dans le cas des vaccins. Est-ce que ça peut expliquer en partie la remise en cause justement de la recherche et de la parole des scientifiques qui les mènent ?
Ce qui est intéressant, c'est que la science comporte plusieurs éléments et que si on les isole les uns des autres, et la science et ses usages et ses applications, si on les isole les uns des autres, si on en prend un et qu'on en fait le tout, eh ben on tombe dans l'idéologie et on tombe dans le danger. Il y a par exemple, on parlait des doutes et des résultats. Moi, je vais revenir un instant avant de répondre à votre question sur les applications et l'économie. C'est vrai que la science est définie par une tension. Il faut les deux. Il faut du doute, mais il faut aussi des résultats. Il faut que ça marche. Il faut que le vaccin nous guérisse, si tu veux, ou en tout cas diminue la virulence du virus, par exemple, et de la maladie. Il faut même qu'il y ait un résultat, mais il ne faut pas avoir le fétichisme des résultats, parce qu'il faut comprendre comment on y est arrivé. Inversement, le doute à lui tout seul ne garantit pas qu'on est dans la science. Et d'ailleurs, les théories du complot sont des pathologies du doute, parce qu'on entretient un doute sans jamais promettre un résultat. Donc on dit, peut-être qu'en fait la Terre est plate, mais en fait on a démontré que la Terre était ronde parce que les observations scientifiques l'ont confirmé. Et aujourd'hui, par exemple, on vient de prouver d'une manière extraordinaire la théorie d'Einstein sur la relativité avec les trous noirs à des milliards d'années-lumière. Donc il y a quand même, c'est le lien entre le doute et le résultat qui fait la science, et il y a des pathologies de la science quand on ne fait attention qu'au résultat, et une autre quand on ne fait attention qu'au doute qui devient soupçon, complotiste, avec l'idée, mais moi je sais, je doute, donc je suis scientifique. Donc il faut les deux. Et pour votre question, je crois que c'est pareil. La santé publique est aujourd'hui l'enjeu majeur, c'est certain. Moi, je suis très heureux de l'avoir émergé comme une préoccupation, même si, en effet, il a fallu la pandémie pour ça. On pourrait revenir sur la question de la prévention. Bien sûr, la santé publique, c'est les dimensions collectives de la santé. Donc, elles interviennent dans le traitement, mais aussi dans la prévention. Une société qui collectivement, produit un cadre de vie qui permet d'avoir moins de maladies, elle a une politique de santé publique au sens très, très large. Et je suis très frappé que la nouvelle ministre de la Santé en France, on ne l'a pas assez relevé, s'appelle ministre de la Santé et de la Prévention. Et donc, en un certain sens, voilà, la santé publique rentre dans la culture politique au plus haut niveau, et c'est peut-être la première fois, c'est un enjeu majeur. Maintenant, est-ce que les recherches peuvent toutes être faites par le public? Peut-être pas. Est-ce que l'économie, la science, voilà, la médecine est aussi un bien avec un des enjeux qui peuvent relever de la recherche privée, qui peuvent relever de l'économie? C'est pas forcément critiquable en soi. Ce qui est critiquable, c'est que effectivement, la santé est un bien public. Les usages de la santé doivent être régis par la politique publique. Si une découverte est faite dans le privé, un vaccin, par exemple, qui peut sauver des vies dans le monde entier, même le président chinois, à un moment donné, mais notre président en France aussi, et de manière peut-être, j'espère, plus suivie des faits, a déclaré le vaccin comme un bien public mondial. Il est découvert par le privé, peut-être qu'il faut indemniser les chercheurs qui ont produit ce bien, mais l'État peut intervenir. Donc il faut une régulation publique de l'économie des biens publics que sont la santé et les applications de la science. Il est évident que ce n'est pas tout ou rien et que ne faut pas diaboliser non plus la recherche privée et l'économie. La santé a un coût. Il faut absolument qu'elle intervienne qu'elle ait des moyens, la recherche a un coût. Il faut aussi construire ce contexte, qu'une découverte scientifique soit développée dans une entreprise, ce n'est pas choquant en soi, mais qu'après, les applications publiques relèvent en effet des institutions publiques nationales et mondiales. On est aujourd'hui dans ce retour de la santé publique dans une perspective enfin sérieuse sur ce sujet, je l'espère, mais j'en suis pas sûr.
Michel Dubois, vous souhaitiez réagir?
Oui, effectivement, il y a cette question de la confiance qui est exprimée à l'égard de la recherche privée. Et Frédéric Worms, effectivement, mentionne l'importance de la recherche partenariale. Et c'est vrai que dans la question sur le plan de la santé, l'industrie pharmaceutique a effectivement un rôle central. Et ici, c'est effectivement très important de souligner que la confiance que l'on mesure est une confiance qui est aussi assez sélective. Et elle s'adresse, pour 8 Français sur 10, à l'égard des scientifiques, des universitaires, pour autant qu'ils ont une forme d'autonomie, d'indépendance par rapport à un ensemble d'intérêts. Ça peut être des intérêts idéologiques, mais ça peut être aussi des intérêts économiques. Et dès lors qu'on déplace le curseur et qu'on les interroge sur la recherche privée, sur les chercheurs qui travaillent dans l'industrie, là, clairement, on voit une décroissance de la confiance et une sorte de doute sur la capacité de ces chercheurs à avoir une forme d'autonomie. Donc, j'insiste bien, je pense que cette question des attitudes, effectivement, dépend étroitement de la perception de l'indépendance, de la capacité à prendre en compte effectivement ce qui est un bien commun par rapport à un bien privé. Et j'insiste de façon très régulière sur le fait qu'on a besoin en France de changer complètement notre culture des liens et des conflits d'intérêts, parce qu'il y a une grande confusion autour de cela, y compris chez les médecins eux-mêmes ou chez les chercheurs.
Yves Charpak, justement, vous vouliez également réagir là-dessus.
Oui, tout à fait. Moi, je voudrais soulever un point auquel il faut faire attention. Il ne s'agit pas de contraste entre la recherche privée et la recherche publique. La majorité des industriels des produits de santé aujourd'hui utilisent et vont chercher des recherches qui ont été faites par la recherche publique et des chercheurs un peu partout dans le monde, justement parce que ça circule. Et en fait, on confond un petit peu la partie production de produits de santé. Il faut bien des industriels pour le faire, parce que je vous garantis que ce n'est pas une administration qui saura le faire. Donc, il y a des principes industriels qui font que pour construire un vaccin, il faut avoir les outils, l'industrie qui va avec. Il faut bien sûr des chercheurs, mais la majorité de nos produits de santé, je voudrais rappeler aujourd'hui que 15 millions de Français ont des maladies chroniques et qu'ils utilisent des médicaments et des produits qui sont fabriqués par des industriels. Donc, il faut de temps en temps rappeler ça. Ce qui pêche, par contre, souvent,
en quelques mots,
c'est la négociation de nos décideurs au sens le plus large avec le monde industriel. Parce que c'est là que ça se joue. La recherche
ce sera le mot de la fin.
Alimente les industries pour qu'elles fabriquent ce dont on a besoin, c'est formidable.
Par contre, il faut être de très bons négociateurs avec le monde industriel ensuite pour que ça reste du bien commun, justement.
Merci, merci beaucoup. Yves Charpak, médecin spécialiste en santé publique, président, je le rappelle, de la Fondation Charpak, l'esprit des sciences. Merci également à Michel Dubois, sociologue au CNRS, qui était avec nous ce soir. Et merci enfin à Frédéric Worms. Restez avec nous sur RFI dans 30 secondes, RFI Soir. Des idées de week-end et de...